Alors, permettez-moi de commencer par définir très brièvement le cadre historique, ensuite un peu moins brièvement le cadre intellectuel de ce rapport entre les écrivains et le pouvoir. Et puis, je vais me consacrer tout particulièrement au cas tchécoslovaque, comme le définit l'intitulé de cette intervention. Alors, pour le cadre politique, je crois que ce qui est important, et vous le savez bien, le XXe siècle, c'est un siècle des idéologies. C'est-à-dire, la culture aussi commence à avoir une fonction politique. Elle sort seulement de sa fonction purement esthétique et elle est utilisée, instrumentalisée, abusée parfois à des fins idéologiques. Alors, on pourrait mettre quelques dates dans ce XXe siècle qui sont importantes. 1914-1918, la Première Guerre mondiale, avec le questionnement essentiel sur la valeur du pacifisme. C'est le débat entre Barbusse et Romain Rolland. Est-ce qu'il faut rester pacifiste? Est-ce qu'il faut être au-dessus de la mêlée, comme Rolland le souhaite? Ou bien est-ce qu'il faut prendre parti, il faut témoigner, comme le fait Barbusse dans son roman Le Feu? 1917, révolution en Russie qui suscite un espoir immense de la part des intellectuels de gauche, mais qui est évidemment ensuite, je dirais, remise en question, cet enthousiasme est remis en question au fur et à mesure qu'on est commencé à connaître la réalité soviétique. 1936-1939, un autre moment extrêmement important pour les intellectuels, c'est la guerre d'Espagne, au cours de laquelle déjà on va voir qu'il y a un clivage très net entre la gauche et la droite par rapport à cet événement politique. Clivage aussi entre les politiques et les intellectuels, ce qui va évidemment continuer à se manifester plus tard, à partir de 1939. Jusqu'à 1945, Deuxième Guerre mondiale. Et il faut dire que la fin du nazisme en 1945 ne signifie absolument pas la fin des totalitarismes, à savoir la culture va toujours continuer à avoir une fonction politique, que ce soit en Allemagne de l'Est notamment, ou que ce soit dans d'autres pays de l'Europe. 1956, 20e congrès du Parti communiste en Union soviétique, la volonté de déstaliniser l'Union soviétique. Et je dirais que la conséquence, c'est ces événements en Pologne et puis en Hongrie, l'insurrection hongroise, ce qui signifie qu'en Europe centrale, et cela va avoir un impact énorme en Europe occidentale aussi, c'est une sorte de crise des utopies. C'est le moment de la crise de l'utopie, du socialisme. Et vous savez qu'à ce moment-là, un certain nombre d'intellectuels français, par exemple, vont quitter le Parti communiste. 1968, la date suivante, l'intervention des troupes du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie pour mater le printemps de Prague, et je dirais, c'est la fin de la légitimité des utopies, la légitimité du socialisme, parce qu'à partir de 68, on ne peut plus être honnêtement communiste. Et puis, dernière date, 1989, la fin des utopies, c'est la fin de cette utopie de la construction d'un monde socialiste ou communiste. Ceci est, je dirais, le cadre plutôt historique. Permettez-moi de revenir à ces quelques dates plutôt du point de vue intellectuel, voire culturel. Alors, 1932, en Union soviétique, Staline va demander la dissolution de différentes associations littéraires et culturelles. C'est la fin des avant-gardes. Mayakovsky s'est suicidé en 1930, et à partir de 1932, cette pluralité culturelle en Union soviétique va disparaître. 1933, l'année suivante, en Allemagne, Hitler arrive au pouvoir en janvier, et déjà le 10 mai, a eu lieu l'autodafé, on va brûler les livres, on va citer les auteurs qui sont mis à l'index et qui vont rapidement être, dont les ouvrages vont être rapidement retirés des bibliothèques. Alors, revenons en Union soviétique, 1934, En Union soviétique, il y a une polémique sur ce qu'on appelle la commande sociale, c'est-à-dire une polémique sur l'écrivain, à quel point est-il disposé à servir le parti, servir les intérêts de la société. Et cette polémique, ou bien ce débat dans la presse et ailleurs, va être dirigé d'une certaine manière contre ce qu'on appelle les compagnons de route, que ce soit Fedine, Pilniak ou Gladkov, à savoir ces écrivains qui ont été tolérés jusqu'à présent sans qu'ils soient effectivement constituants du soutien du Parti communiste soviétique. Alors, l'effet de ce débat apparaît aussi en 1934 dans l'organisation du premier congrès de l'Union des écrivains soviétiques, c'est en août et septembre, ça suit très brièvement le 17e congrès du Parti communiste, le congrès de vainqueurs, où Staline apparaît comme le maître absolu de l'Union soviétique. Et alors, au cours de ce premier congrès de l'Union des écrivains, on va sélectionner les noms de ceux qui sont disposés justement à servir le Parti communiste. À partir de ce moment-là, on va définir, entre Gorki, Staline et d'autres personnalités, on va définir la doctrine du réalisme socialiste qui va être une doctrine qui engage d'abord les écrivains et qui va engager évidemment, bien entendu, aussi les cinéastes, les peintres, les sculpteurs et d'autres personnes qui travaillent dans le domaine de la culture. 1935, l'année suivante, a lieu en Allemagne l'exposition L'art dégénéré, une grande exposition qui d'abord est ouverte à Nuremberg et qui va ensuite être enrichie. Et en 1937, elle va être inaugurée à Munich pour circuler ensuite jusqu'au milieu de la guerre à travers toute l'Allemagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, comme on l'a fait d'une manière différente en Union soviétique, cette idéologie fasciste, comme d'une manière similaire on l'a fait en Union soviétique, on définit l'ennemi. La définition de l'ennemi est fondamentale pour ancrer la doctrine totalitaire aussi dans le domaine de la culture. Pas seulement dans le domaine politique, aussi dans le domaine de la culture. Et l'exemple de Entartete Kunst, l'art dégénéré, de cette exposition est parlant parce que qu'est-ce qu'on y voit comme art dégénéré? Les artistes d'avant-garde, l'art primitif qu'on met en parallèle avec les sculptures des artistes et des peintures des artistes d'avant-garde, et évidemment les artistes juifs, bien sûr, qui sont mis à l'index et qui doivent être, soi-disant, ridiculisés par cette exposition. On sait qu'à peu près à partir de ce moment-là, il y aura une destruction assez massive en Allemagne des œuvres qu'on considère comme représentatives de l'art dégénéré. Il y aura à peu près 5000 œuvres d'art qui vont être détruites. Alors, à ce moment-là, entrent en scène aussi les cinéastes en Union soviétique, Eisenstein, plus tard, en Allemagne, c'est Leni Riefenstahl. On voit que le cinéma joue un rôle fondamental. Alors, quelle est la différence entre, je dirais, la conception de l'art totalitaire en Allemagne et en Union soviétique? Si vous permettez de simplifier à l'extrême, je dirais que le réalisme socialiste et l'art soviétique a comme objectif de convaincre, persuader, changer les mentalités des gens. Staline et les maîtres de la culture soviétique sont certains qu'il y a un travail à faire par rapport à la population. Il faut changer sa mentalité. L'art est un outil pédagogique, quelque part, de propagande et pédagogique. En Allemagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, il ne faut plus convaincre les Allemands. Les Allemands soutiennent les nazis assez massivement, et alors c'est un art de la glorification. On le voit très très bien si on compare le cinéma allemand de Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la Volonté, ou Les Dieux du Stade, le film consacré aux Jeux Olympiques. On voit très bien qu'il y a ces deux options assez différentes, la glorification en Allemagne et le travail de conviction, le travail de propagande dans le cadre du réalisme socialiste en Union soviétique. On verra bien qu'après la guerre, cela se passera également ainsi dans les pays socialistes de l'Europe de l'Est. Alors, ce contexte idéologique de l'art, je l'ai défini par rapport à l'Allemagne et par rapport à l'Union soviétique, mais on peut l'élargir. On peut parler de l'Italie où Marinetti, avec le futurisme, adhère au fascisme. Il cherche le soutien de Mussolini. Et l'art futuriste, le futurisme italien, va déboucher à une sorte de glorification de Mussolini, notamment dans la peinture, essentiellement dans la peinture, glorification de la guerre, bien entendu aussi, c'est caractéristique pour le mouvement futuriste italien. En France aussi. En France, il y a cette mobilisation d'intellectuels, notamment face au danger de la guerre, cette prise de conscience. Depuis 1932, on organise des associations, des groupes, et cela aboutira en 1935 à l'organisation de ce grand congrès international des écrivains pour la défense de la culture, qui va avoir lieu en juin 1935 à la salle de la Mutualité, en présence des plus grands écrivains européens de l'époque, que ce soit André Gide, André Malraux, qui ont été également d'ailleurs à Moscou au premier congrès de l'Union des écrivains, mais également Aldous Huxley, Bertolt Brecht, Heinrich Mann, Aragon, bien entendu, et il y a une délégation soviétique intéressante aussi, parce qu'il y a Pasternak et Babel qui se joignent, qui rejoignent enfin la délégation officielle soviétique, apparemment au dernier moment. Et il y a Alexei Tolstoï, il y a Ehrenburg, bien entendu, qui représente aussi bien la presse soviétique que les écrivains soviétiques. Et il y a aussi plusieurs représentants tchèques, parmi lesquels Vítězslav Nezval, auquel je vais encore revenir. Alors, ce moment-là est crucial dans la, je dirais, dans le rapport entre les intellectuels et la vie politique. Ces années 1935-36, c'est l'époque de grands débats en Union soviétique, parmi les exilés allemands, et parce que ce débat n'est plus possible en Allemagne, et en France également, la question qui se pose dans le contexte de la guerre d'Espagne de 1936-39 est une question tout à fait essentielle. Est-ce qu'on peut critiquer l'Union soviétique sans pour autant être récupéré par la droite? Je crois que c'est vraiment la question qui est posée en 1936, et elle va être reposée encore une fois par André Gide, qui va faire ce voyage en Union soviétique en 1936, qui revient de l'Union soviétique en 1936, où il a eu l'occasion d'assister aux funérailles de Maxime Gorki, où il a été reçu par les représentants politiques, où il a voyagé avec une délégation française, ce voyage qui se passe plutôt mal d'ailleurs, et à son retour, il va préparer la publication de son journal de voyage qui s'appelle « Retour de l'URSS » et il hésite pendant plusieurs mois de le publier. Il hésite pourquoi? Parce que c'est un livre critique sur l'Union soviétique, c'est un livre objectif, c'est un livre critique à l'égard de ce qu'il a vécu, de contacts qu'il a eu, et il va hésiter justement en demandant par exemple à Aragon « Est-ce que je dois publier ce livre ou non? Est-ce que cela peut nuire à la cause de la gauche qui commence à lutter pour la démocratie en Espagne? » Finalement, elle décide de le publier. Ce livre va susciter une vague de critiques extrêmement violente de la part non seulement d'intellectuels de gauche, mais aussi de la part des ouvriers, en partie manipulés. Et là, André Gide va publier l'année suivante une sorte d'annexe qui s'appelle « Retouche à mon retour de l'URSS », où il dit encore plus de, les choses beaucoup plus clairement. Alors, la Tchécoslovaquie n'échappe pas à cette série de débats, de discussions. Je citais Nezval. Nezval a participé à différents congrès d'écrivains à l'Union soviétique. Il voyage en Union soviétique pour le premier congrès de l'Union des écrivains. Il va se rendre à Paris pour le congrès pour la défense internationale des écrivains pour la défense de la culture. Mais il n'est pas le seul. La Tchécoslovaquie, déjà dans les années 20, est un pays qui, vous le savez, c'est un pays démocratique, c'est un pays assez exceptionnel dans le contexte de la recréation de petits États en Europe centrale après la disparition de l'Empire des Habsbourg. Et il faut dire que Le terrain est préparé. Le terrain est préparé, si vous me permettez, une petite parenthèse historique. Je ne vais pas trop revenir à l'histoire, mais celle-ci me paraît importante. L'Empire autrichien se réforme en 1867. Il devient une sorte de fédération, devient Empire de l'Autriche-Hongrie, avec deux entités. Et alors, les Slaves, qui sont majoritaires au sein de cet empire, sont offusqués parce que cet empire donne plus de pouvoir aux Hongrois et aux germanophones. Or, pour les Tchèques, qui constituent, ils croient, quand même une région, ils vivent dans une région relativement développée, qui ont une culture ancienne, il y a l'aspiration à cette Autriche tripartite, non seulement Autriche et Hongrie, mais Autriche, Hongrie plus Bohème ou bien partie slave. Ils vont se fâcher et ils vont bouder les institutions politiques autrichiennes. Pendant plusieurs années, voire 15 ans, ils vont se détourner de la vie politique pour se consacrer exclusivement à la vie culturelle. Ils essayent de démontrer que leur place est importante au sein de cet empire et que c'est une place d'une nation culturelle. Et alors, à ce moment-là, à partir de 1870 à peu près, on voit la naissance d'un grand nombre d'institutions culturelles, musicales, le théâtre national, le musée national, l'académie des sciences, les galeries nationales, etc. On voit que tout l'effort national va dans le domaine de la culture et on boude complètement la vie politique. Bon, cela va avoir certaines conséquences, négatives et positives. Négatives dans la mesure où, après 1918, c'est un pays qui n'a pas vraiment de grande élite politique en dehors de deux ou trois personnalités d'exception, comme les Masaryk, Beneš ou Stefanik. En revanche, 1918, on crée un pays démocratique où le terrain est préparé pour le développement culturel tout à fait extraordinaire. Et il faut dire que la littérature, le cinéma, la peinture, les avant-gardes vont jouir de ce terrain fertile qui a été préparé au cours des années où les Tchèques se sont détournés de la politique pour privilégier la culture. Dans les années 20 et 30, ce pays démocratique où le Parti communiste est autorisé, un des rares pays de l'Europe, enfin le seul pays de l'Europe centrale où le Parti communiste existe, c'est un pays industrialisé, donc il y a le prolétariat, il y a l'organisation politique, il y a l'organisation des partis politiques, de gauche, le spectre est assez large, de la gauche jusqu'à la droite, et alors finalement, on se rend compte que le débat a lieu dès le début des années 20. Alors, il y a, si on fait un panorama rapide de la position d'intellectuel et d'écrivain tchécoslovaque à ce moment-là, on voit d'abord un très fort attachement à l'idée de Masaryk, c'est-à-dire créer un État qui se veut nation, État-nation, mais qui ne l'est bien entendu pas du tout, parce qu'il y a les Tchèques, il y a les Slovaques, il y a une majorité par rapport à la minorité slovaque, je dirais, d'Allemands. Vous savez, il y a à peu près 8 millions de Tchèques, il y a 1 million et demi de Slovaques, il y a 3 millions d'Allemands en Tchécoslovaquie. Il y a 70 000 de Polonais, il y a 40 000 d'Ukrainiens, il y a 600 000 Hongrois. Donc, c'est une miniature de l'Autriche-Hongrie, dit-on. Et alors, finalement, il y a derrière tout ça, le facteur unificateur, c'est évidemment une idée de l'État indépendant et surtout la personnalité de Masaryk. Et Masaryk, qui est philosophe, il est professeur de philosophie depuis 1882 à l'université de Prague, philosophie pratique, c'est un homme pragmatique, on dirait plutôt un sociologue, philosophe de droits de l'homme presque aujourd'hui. C'est un homme qui va rassembler autour de lui, je dirais, un grand nombre d'intellectuels très importants, parmi lesquels on a l'habitude de citer une personnalité hors du commun, c'est Karel Čapek, l'écrivain qui a inventé le mot robot, qui est à la fois auteur de science-fiction, La guerre des salamandres, son magnifique roman sur l'avenir de la société, l'avenir vu à travers un spectre catastrophiste, mais qui est aussi un auteur de romans psychologiques. Et Karel Čapek est autour de lui toute une série d'écrivains, de peintres, d'artistes, vont, qu'on va appeler le groupe du château, parce que le président siège au château, ils vont se réunir régulièrement et ils constituent, je dirais, la garantie de cette continuité démocratique tchécoslovaque. Face à eux, il y a quelques écrivains anarchistes, des poètes qui sont héritiers de la poésie prolétarienne soviétique, qui admirent l'Union soviétique, qui sont membres du Parti communiste, et le membre du Parti communiste va les soutenir fortement. Troisième groupe sont les intellectuels de gauche, certains membres du Parti communiste qui les soutiennent toujours, mais qui vont connaître une rupture par rapport à l'idéologie du PC tchécoslovaque en 1929. En 1929, il y a un tournant au sein du Parti communiste, dans la direction du Parti communiste tchécoslovaque, et le pouvoir est pris par un certain Klement Gottwald, un jeune communiste stalinien, qui va évincer les anciens sociodémocrates fondateurs du Parti communiste tchécoslovaque. Et en 1929, pourquoi je le dis? Parce que cet écrivain des plus prestigieux, qui sympathise avec le Parti communiste et qui sont presque tous, sauf un, membre du Parti communiste, vont écrire une lettre ouverte à Klement Gottwald en dénonçant ce virage pro-stalinien et en se référant à la tradition démocratique du Parti communiste tchécoslovaque qui a été fondé en 1921. Ils vont être exclus du parti et ils vont poursuivre leur voie assez parallèlement, je dirais, avec les intellectuels de gauche, tout en restant en dehors des structures politiques. Alors, c'est à peu près ce paysage que l'on pourrait dessiner. À cela, il faut ajouter l'avant-garde tchécoslovaque. Il y a un mouvement qui s'appelle le poétisme, qui date de 1924 et qui deviendra en 1934 le groupe surréaliste tchécoslovaque. Fort attachement, des attaches très fortes avec le groupe d'André Breton en France. Nezval, qui est fondateur de ce groupe, va se rendre à Paris, va faire venir André Breton, Paul Éluard et d'autres personnalités, Tristan Tzara, en Tchécoslovaquie, à Prague. C'est un séjour triomphal d'ailleurs. Et Vítězslav Nezval va ensuite vivre dans une sorte de schizophrénie politique, parce que d'une part, il se veut surréaliste, mais Breton à l'époque est considéré plutôt comme un trotskiste. Il sera d'ailleurs exclu de ce congrès pour la défense de la culture à Paris suite au conflit qu'il oppose avec Ilya Ehrensburg, à qui il a donné une claque dans la rue. Et alors finalement, ce pauvre Nezval, qui est envoyé à Paris, le voyage est payé par le Parti communiste, il prend le parti des surréalistes qui sont exclus du congrès et qui sont critiqués par le Parti communiste français. Donc il y a cette sorte de danse un peu macabre de Nezval et des surréalistes qui veulent être proches du Parti communiste parce que la modernité, c'est quoi? C'est l'Union soviétique. On croit toujours que la modernité viendra de l'Union soviétique, alors qu'on ne le connaît pas. On n'y est jamais allé. Mais on a cette vision de l'Union soviétique un peu idéalisée. Et alors, on croit en même temps, puisqu'on est soutenu par le Parti communiste, que finalement, on doit obéir au Parti communiste. Mais en même temps, je dirais, le cœur n'y est plus parce que le cœur est plutôt à Paris. Je dirais la poche est à Moscou et où le porte-monnaie se trouve à Moscou et le cœur se trouve plutôt à Paris. Ça, c'est un cas d'une partie d'intellectuels tchécoslovaques dans les années 30, dont Nezval, Karel Taïgé et puis Toyen, la peintre, Štyrský sont les meilleurs représentants. Alors, il y a la guerre. Pendant la guerre, pratiquement pas d'activité intellectuelle particulière, excepté le domaine du cinéma. En Tchécoslovaquie, la cinématographie a été extrêmement développée. Il y a des grands ateliers près de Prague, à Barrandov, qui sont construits par l'oncle de Václav Havel, qui s'appelle aussi Václav Havel, et qui a construit des ateliers les plus modernes de l'Europe. Les Allemands, ayant peur des bombardements, déplacent pratiquement toute la production cinématographique à Prague, et c'est le seul domaine où il y a ce qu'on peut appeler, je dirais, la collaboration de cinéastes tchécoslovaques, que ce soit les metteurs en scène, les acteurs qui vont travailler pour l'industrie cinématographique allemande. Vous connaissez peut-être l'histoire de coup de foudre de Josef Goebbels pour l'actrice tchèque Lida Bárhová, dont il est devenu complètement fou, et il a même demandé à Hitler de l'autoriser à divorcer et de partir de l'Allemagne en 1942. Bon, cela s'est arrêté assez vite. Bárhová doit quitter l'Allemagne. Elle va ensuite tourner pour Fellini plus tard en Italie. Alors, c'est une anecdote, mais ça montre bien l'imbrication de la cinématographie allemande et tchécoslovaque pendant la guerre. Sinon, il n'y a pas de collaboration. De la part d'écrivains, il n'y a pas de collaboration. Il y a en revanche des écrivains qui sont exécutés par les nazis, comme Vladislav Vančura, ancien membre du Parti communiste, et par ailleurs aussi signataire de cette lettre ouverte à Clement Gottwald en 1929. Alors, au lendemain de la guerre, le prestige de l'Union soviétique fait qu'il y a des adhésions massives au Parti communiste tchécoslovaque, Parti communiste qui se représente comme l'un des acteurs fondamentaux de la victoire à l'intérieur contre le fascisme. On va d'ailleurs assez rapidement minimaliser le rôle de la résistance, je dirais, occidentale, pro-occidentale, parce que la Tchécoslovaquie, comme d'autres pays, ont leur gouvernement en exil. Ce gouvernement est dirigé par Edvard Beneš, l'ancien président tchécoslovaque. Et alors, il y a évidemment une grande sympathie pour l'Union soviétique en 1945. C'est le revers aussi de différents facteurs. C'est aussi la trahison, je dirais, comme on l'appelle à l'époque, la trahison de Munich. Je crois que le prestige de la France, qui a été extraordinaire entre les deux guerres, finalement a perdu énormément de ce qu'on espérait en 1938, au moment où les accords de Munich obligent la Tchécoslovaquie à céder les régions des Sudètes au Troisième Reich. Donc, la France, certainement pas. L'Amérique, très peu. Chez la sympathie pour les États-Unis, certainement. Mais les Américains ne sont entrés que très peu sur le territoire tchécoslovaque. On aura des effets dans la littérature. Je reviendrai à ça très brièvement. Mais c'est évidemment surtout l'armée rouge, l'Union soviétique, Staline, Moscou, qui constituent vraiment les représentants de cette paix retrouvée. 1946, les élections, et le Parti communiste est le grand vainqueur en Tchécoslovaquie. 40% de voix. Beaucoup plus en Bohême et Moravie, beaucoup moins en Slovaquie. Néanmoins, les manipulations vont se faire de manière à ce qu'en Slovaquie, le Parti communiste slovaque apparaisse aussi comme le parti du moins deuxième sur le schéma ou sur l'échelle politique. Alors, 1946, donc, les communistes sont au pouvoir, pratiquement. Beneš reste toujours le président tchécoslovaque. Néanmoins, on prépare ce qu'on appelle le coup de Prague. Le coup de Prague en février 1948, c'est-à-dire la prise de pouvoir forcée par les communistes, qui est due à plusieurs facteurs. D'une part, en mai 1948, doivent avoir lieu de nouvelles élections. Les premières, c'était en mai 1946, seconde, mai 1948. Et tous les sondages prévoient l'échec des communistes. Et la montée des partis démocratiques, des partis centraux. Cela accélère la pression de Moscou sur les communistes tchécoslovaques, le soutien et la volonté claire de changer la donne, de donner le coup final à cette démocratie et instaurer le régime communiste comme on l'a fait déjà dans les autres pays, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, reste la Tchécoslovaquie qui est le dernier pays en Europe centrale qui encore se réclame de tradition occidentale et démocratique. Ces choses faites en février 1948, et très rapidement, on verra les effets dans le domaine de la littérature et de la culture. Alors, dans le domaine de la culture, il faut dire qu'on va, par exemple, dès 1948, interdire le syndicat des écrivains. Le syndicat des écrivains, qui est l'association des écrivains indépendante, démocratique, qui regroupe aussi bien les écrivains, je dirais, de gauche que les écrivains démocrates qui se réfèrent encore à la Première République. Et on va fonder l'Union des écrivains tchécoslovaques sur le modèle soviétique. Donc on va accepter les personnalités qui sont sûres, les personnalités qui sont disposées à soutenir la politique du Parti communiste tchécoslovaque. 1949 a lieu le premier congrès, et là on instaure le réalisme socialiste comme une méthode créatrice obligatoire pour les écrivains et sur le modèle de l'union des écrivains, on va bien sûr créer l'union des artistes plasticiens, l'union des cinéastes, etc., etc., l'union des journalistes et bien sûr la carte du parti est pratiquement la condition pour entrer dans ces unions. Alors ces unions ont la particularité d'offrir à leurs membres un grand nombre d'avantages. On y entre soit par conviction, ce qui est le cas d'un certain nombre d'écrivains, voire d'écrivains bourgeois, comme on le disait, c'est-à-dire les écrivains de grandes familles, je dirais patriciennes tchécoslovaques, un certain nombre de femmes et hommes écrivains qui se référaient toujours à la tradition de Masaryk et qui, suite à la guerre, et peut-être face à cette proposition de vivre de sa plume, de bénéficier d'un grand nombre d'avantages, réintègre le Parti communiste et l'Union des écrivains. C'est le cas de Yandeda, Marie Majerova, Marie Pujmanova, Yarmila Glazarova. Ce sont les écrivains qui, dans la période de l'entre-deux-guerres, représentent le grand roman bourgeois classique en Tchécoslovaquie et qui soudain deviennent personnalités qui soutiennent le Parti communiste dans son effort de la transformation de la vie intellectuelle. Alors, donc l'attrait de cette union des écrivains, notamment chez beaucoup de jeunes auteurs qui sont nés, c'est la génération de Milan Kundera, pour être très clair, génération qui est née entre 1920 et 1930, qui ont vécu la guerre comme quelque chose d'apocalyptique, qui voit l'Union soviétique comme un pays de l'avenir et qui finalement croient qu'ils ont un devoir de soutenir cette politique sociale du Parti communiste et cette politique culturelle. Et alors, c'est toute une génération parmi lesquelles, je citais Milan Kundera, il y a Ludwig Vaculík, il y a Pavel Kohout, il y a Antonin Lim, etc., etc. Toute une génération d'écrivains très doués qui vont intégrer le Parti communiste, qui vont le soutenir, et le Parti, en revanche, va le soutenir aussi en leur donnant un grand nombre de privilèges, parce qu'en tant que membre de l'Union des écrivains, vous avez un certain nombre de facilités, de publications, garanties de salaire avec des bourses, etc., etc. Alors, en revanche, on voit que le paysage politique va se polariser. D'un côté, l'Union des écrivains, les anciens, les écrivains bourgeois d'avant-guerre, les jeunes très convaincus de bienfaits du communisme. Mais il y a, en dehors de cela, déjà une première vague d'émigration parmi cette émigration. Ça concerne en 48-49, où la frontière est définitivement fermée, à peu près 50 000 personnes. Parmi ces personnes, c'est l'exil tchécoslovaque de 48, il y a un grand nombre d'écrivains. Jan Čep, il y a Jan Listopad, Hostovski, etc. Troisième catégorie d'écrivains, ce sont ceux qui restent et qui n'adhèrent absolument pas à la politique du parti, qui s'opposent à cela et qui s'opposent soit ouvertement, comme c'est le cas d'un certain nombre d'écrivains qui n'acceptent pas cette politique et le disent, osent le dire, comme Karel Pecka, comme Jiří Mucha, le fils d'Alphonse Mucha, le peintre, comme Petr Kopta, et qui vont purger des peines de prison souvent très lourdes dans les mines d'uranium à Yakhimov, qui sont transformées en camps de concentration, une sorte de goulag. Et alors, il y a ensuite, parmi ces prisonniers, encore les écrivains catholiques. Il y a toute une catégorie d'écrivains catholiques, parmi lesquels le plus célèbre, c'est Jan Zahradníček, poète, un grand poète catholique, qui va purger 13 ans de camp, malgré le fait qu'il n'a absolument manifesté aucune opinion politique, seulement du fait d'être considéré comme représentant de la littérature catholique. Bon, c'est une campagne contre l'Église qui est massive. Vous savez qu'on a détruit à peu près 12 millions de volumes de livres rien que dans les monastères entre 1948 et 1956. Cette campagne de laïcisation, bien sûr, touche également les intellectuels. Alors, il y a cette, je dirais, polarisation du paysage culturel en Tchécoslovaquie dans les années 50. Le débat autour du réalisme socialiste ne se fait absolument pas. C'est une doctrine qui engage. Les choses vont changer en 1956. En 1956 a lieu, après 1949, le deuxième congrès de l'Union des écrivains. Ce deuxième congrès de l'Union des écrivains se fait dans le contexte d'une certaine libéralisation. La Tchécoslovaquie ne connaît pas la déstalinisation à ce moment-là, ou volonté de déstaliniser le pays, comme c'est en Union soviétique, comme c'est en Pologne, comme c'est en Hongrie. En Tchécoslovaquie, il ne se passe rien. On sent un petit peu la libéralisation uniquement sur le plan intellectuel, dans le contexte de ce deuxième congrès de l'Union des écrivains, où un écrivain ose prendre la parole très ouvertement, et c'est Jaroslav Seifert. Jaroslav Seifert, c'est un grand poète qui est né en 1901, qui a également signé cette lettre de 1929, d'ailleurs, et exclu du Parti communiste, qui est considéré comme le poète national, quelque part, si vous voulez, et qui, d'ailleurs, va avoir, en 1984, le prix Nobel de littérature. Jaroslav Seifert ose appeler les choses par leur nom au cours de ce congrès. Il va poser la question, tout simplement, alors, de la différence entre les paroles et les faits dans le domaine de la culture. Alors, on soutient la culture, mais quelle est cette culture? Quel est son niveau? Où sont ces écrivains qui sont notre fierté? Ils sont encore dans les camps, dans les prisons. Il est temps d'arrêter tout ça parce que regardez ce qui se passe en Union soviétique. Je crois que cela va soulever une vague de soutien à ce discours qui va se manifester, je dirais, au cours de tout ce congrès où les gens ont préparé des discours très bien dans les limites de ce qu'on peut dire et finalement rejettent les papiers et osent dire certaines choses. Et parmi ces gens-là, il y aura un jeune de 20 ans qui s'appelle Václav Havel, qui va aussi prendre la parole et qui va poser la question de la jeune littérature. Mais ce dégel, comme dirait Ilya Ehrenburg, ne dure que très peu de temps, parce que finalement, les choses vont de nouveau s'arrêter, et il faudra attendre l'année 1963 pour remarquer que les premiers signes de la déstalinisation apparaissent également en Tchécoslovaquie. Alors, tous les politologues se posent la question, pourquoi à ce moment-là? Je crois que c'est la fatigue du pouvoir. Depuis 1956, il y a toujours le même homme au pouvoir, c'est Antoni Novotný, qui est premier secrétaire du Parti communiste, qui est président tchécoslovaque, qui n'est pas un homme très intelligent, et qui finalement va lâcher un petit peu les choses, et qui finalement aussi va autoriser un certain nombre de manifestations que l'on considère comme le point de départ de la libéralisation qui va aboutir à ce qu'on appelle le printemps de Prague. On est en 1963, cette année est marquée par une conférence sur Kafka. 1963, et on a les minutes du débat au comité central du Parti communiste, c'est tout à fait intéressant, parce qu'à ce moment-là, le représentant de la vie, de le comité de la culture du Parti communiste, ça ne se passait pas au niveau du ministère de la culture, ça s'est passé au comité central, un des représentants du service culturel dit, il y a un certain Goldstücker, un professeur qui veut faire colloque sur Kafka. Alors il y a un autre représentant, ça se passe au Politbüro, qui dit, Kafka c'est un Allemand. Et alors on répond, non c'est un Autrichien. Enfin on peut dire que c'est un Tchèque. Alors quand vous entendez ce discours, on dit, mais alors si on invite les camarades de l'Allemagne de l'Est, on pourrait le faire peut-être. Alors finalement c'est parce qu'il y avait un essai sur Kafka en Allemagne de l'Est, que quelqu'un sort en disant, voilà, il y a notre camarade de l'Allemagne de l'Est qui a écrit sur Kafka, il dit que ce n'est pas mauvais. Alors, on autorise la conférence à Leiblitzé sur Kafka, et on considère aujourd'hui que c'est le départ de cette libéralisation culturelle, parce que jusqu'à présent, malgré quelques publications, Kafka a été considéré vraiment comme l'écrivain de défaitisme, l'écrivain d'abord de langue allemande, et surtout quelqu'un qui est à l'opposé, du réalisme socialiste. Inutile de le détailler. Alors, Cette libéralisation va se manifester par un grand nombre de traductions d'écrivains jusqu'alors interdits, une grande vague de sympathie pour la littérature américaine, anglo-saxonne en général, mais aussi on va découvrir les écrivains français, le théâtre de l'absurde. C'est l'année où on va ouvrir plusieurs petits théâtres. C'est la vague de sympathie pour ces petits théâtres qui s'opposent à ces grandes scènes, ces industries théâtrales des théâtres nationaux. Ces petits théâtres pour 50-60 personnes, on va donner les pièces de Ionesco, de Beckett, et Milan Kundera écrit une pièce à ce moment-là aussi qui peut être classée dans cette catégorie, Les propriétaires des clés. Václav Havel, La fête en plein air, aussi une pièce qui est donnée en 1963 dans le théâtre qui s'appelle Nazar Bradley sur la balustrade, qui est pratiquement le meilleur de ces petits nouveaux théâtres en Tchécoslovaquie. 1963, c'est aussi le début de cette nouvelle vague cinématographique tchécoslovaque. Ce sont ces cinéastes comme Miloš Forman, Las Dupik, Les Amours d'une blonde, ce cinéma qui se détourne complètement d'une vision idéalisée de la société. C'est ce film noir et blanc d'une société qui est noire et blanche, et on voit les problèmes du quotidien des petites gens. C'est un cinéma hyper réaliste, je dirais, qui montre la société tchécoslovaque au début des années 60. On voit donc, on peut dire que c'est la fin du réalisme socialiste, et à ce moment-là, on va renforcer aussi des liens avec des intellectuels occidentaux, qu'ils soient marxistes ou non. On va faire venir à Prague Jean-Paul Sartre, qui attire beaucoup d'attention, qui fait cependant un discours plutôt pro-communiste. Il est tout à fait en décalage par rapport à ce que les gens attendent de lui. Ils attendent un soutien, et alors Jean-Paul Sartre apparaît plutôt comme quelqu'un qui défend la révolution cubaine et la Chine et Mao, et il faut suivre leurs exemples, donc on est un petit peu effrayé. Mais néanmoins, il y a toute une série d'écrivains américains qui viennent à Prague parler, lire leur poésie. C'est la poésie des beatniks, la Beat Generation, qui vont également se manifester dans ce pays qui commence à s'ouvrir à la vie culturelle occidentale. Cela permet aussi à toute une génération de grands écrivains, comme c'est Bohumil Hrabal, que vous connaissez peut-être, romancier, Jiří Kolář, d'apparaître. Ce sont les écrivains qui ne s'intéressent pas à la politique. Ils ne se situent ni dans l'opposition, ni dans la position pour le Parti communiste. Et ce qui est peut-être le plus grave, c'est que ces jeunes écrivains qui ont jusqu'alors soutenu fortement le Parti communiste, ces jeunes comme Kundera par exemple, finalement commencent à se montrer critique à l'égard de celui qui les nourrissait, de celui qui les favorisait toujours, c'est-à-dire le pouvoir politique. Et à ce moment-là, ces écrivains commencent à montrer une certaine méfiance à l'égard de la vie politique, de la vie culturelle. Et il y a un journal qui s'appelle Literární noviny, la Gazette littéraire, dirigée par Antonin Lim, qui vit maintenant à Paris encore, très âgé, mais qui vit toujours à Paris. Et ce journal devient la plateforme de cette opposition intellectuelle. Elle va se cristalliser au cours des années qui vont de 63-64 jusqu'à 68. Cette libéralisation a des effets extraordinaires parce qu'on peut voyager librement en Occident, par exemple. À partir de 64, on peut voyager en Occident. Plus facilement, d'ailleurs, que dans les autres pays de l'Est. Et puis, il y a la fin de la censure. La censure s'assouplit et au printemps, en fin février, début mars 1968, elle cesse d'exister. La censure par laquelle tout passait jusqu'à présent, c'est une énorme institution où travaillent 2000 personnes qui censurent la presse étrangère, qui censurent les journaux, qui censurent la radio, la télévision. Tout ce qui est publié doit passer par le regard de la censure qui doit approuver la publication. Et cette censure disparaît. Donc, évidemment, rien d'étonnant qu'à Moscou, Brejnev va sursiller et il va appeler au secours ou pour consultation les autres représentants des partis communistes, ce qui aboutira en août 1968 à cette invasion de la Tchécoslovaquie et on va mater militairement tout cet effort de la construction de socialisme à visage humain, ce socialisme qui se veut beaucoup plus juste et beaucoup moins démagogique que celui qu'on a connu jusqu'à présent. Alors il y a toute une série d'écrivains à ce moment-là qui vont quitter la Tchécoslovaquie. C'est le cas de Josef Škvorecký, un écrivain qui a créé la sensation en 1958 en publiant. C'est un écrivain tout à fait en dehors des structures du parti politique, écrivain indépendant qui dirige une revue littéraire et qui en 1958 a publié un roman qui s'appelle Les Lâches, publié chez Gallimard, si ça vous intéresse. Et en 1958, finalement, ce roman fait sensation parce que il montre une ville de la Bohème, une petite ville en Bohème, pendant les derniers jours de la guerre. Et la ville est libérée par l'armée rouge, et puis elle est récupérée par les Allemands, puis il y a l'armée rouge, puis l'armée rouge se retire, il y a des partisans, il y a la résistance qui occupe la ville, puis il y a de nouveau des Allemands. Et en 5 jours, on voit très bien le changement de la position de la population qui est lâche, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est un roman réaliste qui se passe dans la ville où Škvorecký a vécu sa jeunesse. C'est un roman réaliste. Et finalement, cela contraste tout à fait avec l'image que l'on faisait de la population tchécoslovaque pendant la guerre, bon, soit martyrisée, soit héroïque. Alors ça montre aussi l'autre côté de cette... Le roman interdit. Et Josef Škvorecký va quitter la Tchécoslovaquie en 68. Et il va créer au Canada, à Toronto, une maison d'édition qui s'appelle 68 Publishers, donc édition 68, en se référant à l'année 1968. Et c'est une maison d'édition qui va publier les livres d'écrivains tchèques interdits après 1968 en tchèque au Canada et de les diffuser. Alors, on en vient maintenant à cette, de nouveau, la nouvelle polarisation de cette société intellectuelle. Après 68, entre 68 et 89, pendant la période qu'on appelle la période de la normalisation. Et de nouveau, on voit qu'il y a, d'une part, les écrivains qui partent en exil. Ça sera le cas de Antonin Lim, Pavel Kohout, Milan Kundera, Arnoš Lustig. Bref, toute une génération d'écrivains nés autour de 1920. Qui a fait, je dirais, presque la gloire de la littérature tchèque autour de 68. Ces écrivains vont s'établir à l'étranger et vont publier, surtout à travers des traductions à l'étranger. Alors, il y a une deuxième catégorie d'écrivains, ceux qui restent et qui ne peuvent pas publier. Ludwig Vaculík, par exemple, parmi tant d'autres, qui va rester en Tchécoslovaquie et qui, évidemment, est interdit de publication. C'est le cas de Vladimir Holan, le poète, de Jiří Kolář, de Bohumil Hrabal, de Jaroslav Seifert, que j'ai cité tout à l'heure. Ces écrivains vont néanmoins publier des livres par l'intermédiaire de samizdat. Les russisans connaissent très très bien ce terme. Pour les autres, parfois, c'est un terme un peu obscur. Et c'est vrai que la réalité est assez complexe. Parce que qu'est-ce que samizdat? Ce sont ces éditions. J'ai apporté quelques exemplaires de ces livres publiés en samizdat. En fait, ce sont les livres qui sont publiés par les écrivains eux-mêmes qui ne peuvent pas publier et qui, tout simplement, je vous le ferai circuler, qui les publient en les dactylographiant avec des papiers carton. Carton qui font quoi 7 exemplaires, le 8e étant déjà illisible, qui les relient eux-mêmes. Souvent, c'est le papier peint que l'on achète dans une papeterie. Et alors, ces livres vont ensuite circuler, vont être copiés par d'autres personnes, soit d'une manière en accord avec l'auteur, soit d'une manière tout à fait illicite, on va les diffuser, on va les vendre. Cela permet à la littérature tchèque, dans les années 69, où la censure est réinstaurée jusqu'à 89, d'exister. Parce qu'il y a la troisième catégorie que je mentionne juste, je dirais, en marge, ce sont les écrivains qui travaillent pour le parti. Il y a un certain nombre d'écrivains qui réintègrent la nouvelle Union des écrivains qui est fondée en 1969 ou 1970, je crois, et qui sont des écrivains soutenus par le parti. Il faut dire que parmi ces écrivains-là, vous ne connaissez aucun nom, parce que ce sont des écrivains de seconde, je dirais, troisième zone. Il n'y a pas de littérature tchécoslovaque officielle, importante, intéressante, celle qui est autorisée et soutenue par les structures de la politique culturelle entre 1969, 70 et 1989. Il n'y a pas de grands écrivains. Or, ces écrivains qui restent en Tchécoslovaquie ont tous, à un moment ou à un autre, des problèmes, de gros problèmes avec la censure, voire des problèmes pendant toute cette période-là. Deux cas particuliers, c'est Jaroslav Seifert, le poète qui, finalement, on l'autorise à publier quelques recueils poétiques qui datent de l'entre-deux-guerres, d'avant-guerre, mais il ne peut publier aucun recueil poétique écrit après 1969. Or, en 1984, il reçoit le prix Nobel de littérature et le Parti communiste tchécoslovaque, le gouvernement, est évidemment extrêmement gêné. On est un peu dans le cas de figure de Pasternak en 1958, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature. On ne savait pas très bien quoi faire. Alors, on va l'autoriser à publier les recueils de poésie, voire ses mémoires, mais qui vont être censurés. Et alors, on a l'édition censurée qui est publiée, on a l'édition non censurée qui est publiée en sa mise date, et puis on a une troisième version qui est publiée toujours en tchèque dans les maisons d'édition comme celle de Škvoretský, Six State Publishers, qui se sont créées au Canada et pour lesquelles Seifert encore complète ce manuscrit qui a circulé déjà en tant que sa mise date. C'est le même cas de figure, c'est le cas de Bohumil Hrabal, le romancier. C'est la même chose. C'est un écrivain qui est interdit, qui a commencé à publier seulement grâce au dégel de 63, qui ne veut pas s'arrêter de publier, qui écrit énormément et dont les romans sont extrêmement appréciés. Et finalement, il doit composer plus ou moins avec la censure. Et dans son cas, on a aussi différentes versions de ces romans, romans publiés par une maison d'édition tchécoslovaque, censurés avec des découpages. On a une version samizdat, on a une version publiée en tchèque à l'étranger, et encore, je le sais par ma propre expérience ou par l'amitié que j'ai entretenue avec sa traductrice, il y a d'autres versions lorsqu'on le traduit en allemand, parce que sa traductrice lui dit voilà, ça va pas, alors donc il ne se gêne pas, il barre, il réécrit. Publier les œuvres complètes, les faire une édition critique des œuvres de Hrabal, c'est pratiquement impossible parce que de chaque texte, on a au moins 3, 4, voire 5 versions différentes. Alors, voilà à quoi on est arrivé. Ces éditions samizdat ont une ampleur assez inattendue. Ludwig Vaculík, qui est un grand écrivain qui reste en Tchécoslovaquie, crée lui-même sa collection samizdat qui s'appelle Édition Le Cadena, Edice Petlice, et il publie 400 volumes. Il y a 400 livres dactylographiés, souvent des gros romans, qu'il fait dactylographier, qu'il fait le travail de rédacteur, il le fait dactylographier, il travaille avec plusieurs dactylos qui sont souvent arrêtés, interrogés par la police. Il le fait relier par des relieurs qui le soutiennent ou bien qui le font en noir, bien entendu. Il transporte ses livres dans les grands sacs à travers Prague. Il les vend aux amis parce qu'il doit payer les dactylos. Il paye les auteurs. Il fonctionne comme une maison d'édition pratiquement. Il est constamment surveillé. Il est bien entendu appelé à la police, interrogé par la police. Tout cela va l'inspirer à la publication d'un roman, un journal roman, si vous voulez, qui s'appelle La Clé des songes, qui a été publié chez Actes Sud et qui raconte cette histoire de l'intellectuel tchèque dans les années 1980. Václav Havel lui-même dans le même cas de figure, lui et sa femme Olga, alors que Václav Havel est complètement interdit parce qu'il est à partir de 1977 considéré comme l'instigateur de la charte 77, à savoir le manifeste de cette société civile face au pouvoir totalitaire. Václav Havel, surveillé, 4 fois emprisonné, il va avec sa femme également dactylographier ses livres, les diffuser, avoir une collection, une édition qui s'appelle Editse Expeditse. Jan Vladislav, un poète, publie dans cette collection qui s'appelle Kvart aussi une centaine de livres qu'il dactylographie lui-même, qu'il relit lui-même également. Alors, on a cette activité tout à fait extraordinaire qui permet de sauvegarder la littérature tchécoslovaque. C'est sa mise date circule, et puis il passe à l'étranger, et on les publie. Soit on les traduit, et on les publie, soit on les publie en tchèque, parce qu'il y a 3-4 maisons d'édition tout à fait correctes qui continuent à publier la littérature tchèque au Canada, en Allemagne, les éditions Index, en Italie également. Il y a donc ce travail de coopération entre les intellectuels en Tchécoslovaquie interdits, ces dissidents, comme on les appelle, et l'exil, toutes les structures de l'exil qui se sont créées à Rome autour d'une revue qui s'appelle Listi, dirigée par Jiří Pelikán, qui est un politique exilé en Italie. Au Canada, avec Joseph Skvoretsky, maison d'édition Index qui se trouve à Cologne, en Allemagne. Et puis, cette infinie de petits éditeurs, parmi lesquels il y a 4-5 grands éditeurs de samizdat qui permettent à la littérature tchèque de tenir le coup, de survivre. Alors, c'est ainsi qu'on résiste à ce que Aragon appelait le Biafra de l'esprit, Heinrich Böll, le cimetière de la culture, et Kundera va parler plus tard de l'Occident kidnappé. Je suis à la dernière feuille, je pense que le temps vraiment presse, et je vais terminer. Alors, on considère qu'il y a à peu près 150 écrivains tchécoslovaques qui se trouvent en exil après 1968, à savoir des gens qui ont déjà publié des livres et qui continuent à publier. C'est énorme. C'est un pays, c'est un petit pays, il a 15 millions d'habitants, 150 écrivains, philosophes aussi, professeurs, artistes, dans un exil après 1968, entre 68 et jusqu'à 1977, jusqu'à la charte, on estime qu'il y a entre 200 et 250 000 exilés tchécoslovaques qui sont passés à l'ouest. La situation de ces dissidents à l'intérieur du pays va changer, évidemment, à partir du moment où est diffusée la charte 77. C'est une période qui se termine. Entre 68 et 77, on peut parler d'une sorte de contrat social signé entre le pouvoir et l'opposition. Vous ne vous mêlez pas de la politique, on vous laisse faire. Ne criez pas trop, ne publiez pas trop, ne diffusez pas trop les textes, mais on vous laisse faire. À partir de 1977, après la publication de la charte, qui est le texte donc, qui se réfère aux droits de l'homme, au respect des droits de l'homme, et autour duquel se crée ce noyau de l'opposition qu'on appelle les dissidents, à partir de ce moment-là, ce contrat est rompu et le régime va très durement poursuivre tous les opposants. C'est le dernier moment aussi où il y a une vague d'immigrés. Parmi eux, il y a un certain nombre de signataires de la charte qui sont littéralement poussés à l'extérieur de la Tchécoslovaquie, comme on l'a fait avec Solzhenitsyn en Union soviétique. Voilà, alors on peut se demander, à la fin maintenant, est-ce que cela a, ces livres-là que je vous invite à parcourir, c'est plutôt, je dirais, un objet d'émotion aujourd'hui qu'un document. À quel point cela a menacé le régime? Certainement pas. Néanmoins, ce régime s'est acharné contre les intellectuels pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'était la seule forme d'opposition qui s'est manifestée à l'époque de cette normalisation. C'est la seule forme d'opposition qui existait. Et deuxièmement, parce qu'il avait peur qu'au sein de cette opposition pourraient apparaître de nouvelles élites qui remplaceraient le régime si ce régime tombe. Et c'est ce qui s'est effectivement passé, parce qu'en 1989, le régime s'effondre et c'est de ce milieu-là, du milieu de ces intellectuels dissidents, que vont sortir, ressurgir les figures politiques où ces intellectuels, mais Havel qui est le plus connu bien sûr, mais Petre Pitard qui est historien, Milan Uhde devient ministre de la Culture, c'est un auteur dramatique, on voit que cette opposition prépare la prise de pouvoir. Elle ne le prépare pas, mais elle est là. Et il y a cette alternative politique qui apparaît. C'est la raison pour laquelle on voulait la mater, on voulait la neutraliser. Et alors, pour finir, je voudrais bien sûr poser une série de questions, mais enfin, peut-être on va se limiter à une ou deux pour l'instant. C'est-à-dire, cette littérature qui avait un impact extraordinaire à l'époque du communisme, où les gens s'arrachaient ces livres, on les cachait. Vous savez, Seyfried se souvient que un recueil de ses poésies a été dactylographié 2000 fois. On a répertorié 2000 exemplaires dactylographiés d'un recueil de poésie. Aujourd'hui, c'est impensable. Alors, on peut vraiment se poser cette question qui me paraît toujours assez la réponse me paraît toujours énigmatique. Quel est le poids de la culture extraordinaire et l'extraordinaire dans un régime totalitaire? Or, lorsque ce régime devient démocratique, lorsque le système totalitaire s'effondre, quelle est la place de la culture? Est-ce qu'elle est toujours la même ou bien est-ce qu'elle est frappée, je dirais, par le dictat du marché? C'est ce qui se passe en Tchécoslovaquie. Si vous regardez la littérature tchèque des 40 dernières années, les œuvres essentielles sont les œuvres d'écrivains qui ont publié, écrit, et essayer de publier ou publier à l'époque du communisme. Depuis, les Kundera, il n'y en a plus. Les Vatsulik, il n'y en a pas non plus. Donc, on a effectivement un changement des rapports entre la politique et la culture, entre l'intellectuel et le pouvoir. On entre dans un schéma, bien sûr, beaucoup plus commercial, et je crois que c'est le dictat du marché qui va prendre les choses en main et qui va évidemment donner un statut différent à l'œuvre littéraire que sous le régime totalitaire où cette œuvre porte un message qui est non seulement littéraire mais qui est également, je dirais, social, historique et politique. Et je terminerai par la citation de Philip Roth qui a dit une chose qui me paraît toujours très belle. Il a dit par rapport à ce régime totalitaire quand il est venu à Prague, il a dit, vous savez, chez vous on ne peut rien dire, mais chaque parole prononcée a du poids. Chez nous, en revanche, on peut tout dire et les mots n'ont plus aucun poids. Je vous remercie pour votre attention. Merci.